Totem, le club 100 et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Très bonne soirée avec le club 100 et or. On va dans la prochaine demi-heure parler de Rodez et de son match à sensation avec Jean-Charles Virlogieux. Bonsoir.
Bonsoir.
Notre invité a des stats comparables à Erling Haaland depuis le début de l'année 2024. On en parlera en fait de club 100 et or. C'est l'enfant du pays, Kylian Corredor. Bonsoir.
Bonsoir.
On va évidemment revenir sur cette rencontre face à Quevilly, Jean-Charles.
Ouais, décidément, hein, les matchs face à Quevilly sont rarement des matchs ordinaires, même s'ils sont plus souvent ratés en terre normande qu'à Paul Lignon. En tout cas, au global, le bilan entre vous est parfaitement équilibré. Deux victoires, deux défaites et deux nuls, dont celui de samedi. Malheureusement, pourrait-on dire, entre guillemets. En tout cas, Rodez nous a habitués aux matchs à rebondissement cette saison, mais là, est-ce qu'on n'est quand même pas sur un match référence en la matière, Kylian ?
Ah, on est habitué depuis le début de saison à faire ce genre de match. Je pense qu'on a des scénarios qui ne sont pas du tout ordinaires, ce qui fait aussi un peu la beauté de cette saison. Le rouge, le fait que tu gagnes 2-0, tu prends le but juste à la mi-temps, tu reprends le 3-2, tu prends le but à la dernière minute encore une fois. Là, ouais, on a fait fort.
Bon, c'est vrai, pourtant, tout avait bien commencé. On vient d'en parler avec votre doublé. Des buts dans deux registres bien différents. Le premier à la suite d'un coup de pied arrêté, le deuxième d'une manière un peu plus individuelle. Comment vous les ressentez, ces deux buts ?
Ouais, c'est ce qu'on travaille la semaine. Les coups de pied arrêtés, on les travaille la semaine. C'est des combis qui sont prévus, c'est la zone où je dois être. Après, c'est un duel. Voilà. Là, j'ai la chance de le gagner et tant mieux. Et après,
il n'est pas facile à mettre hein, parce que ce n'est pas votre pied le préférentiel qui arrive vers le ballon.
Ouais, bah là, je mets la semelle, je ne réfléchis pas. Je mets la semelle et le ballon part où il part et il va un petit filet, donc tant mieux. Et le deuxième, pareil, sur les spécifiques attaquants, le jeudi, on les travaille. Ce genre de course, ce genre de frappe aussi au sol.
Est-ce que la défense de Quevilly vous a pas un peu aidé quand même sur l'action ?
Et je pense que l'appel d'Andreas aussi est pas pour rien, parce qu'il attire les défenseurs et il me laisse le boulevard. Après, j'ai la chance d'avoir le défenseur qui est sur moi, qui glisse aussi, qui perd ses appuis. Donc après, je saisis le boulevard qu'il m'offre.
Après, il n'y a pas beaucoup de place pour la mettre. Hein,
ouais, la finition est clinique, effectivement, de l'extérieur de la surface de réparation. Ça permettait à Rodez, en tout cas, d'avoir deux longueurs d'avance.
Ouais. Et à ce moment-là, on se dit que Rodez fait mal offensivement et reste concentré défensivement. On a l'impression que vous rendez la copie parfaite. Et puis, Quevilly va un peu plus oser. Il va y avoir l'entrée d'un attaquant en plus côté QRM, Mamadou Camara, qui va marquer deux minutes après. C'est un vrai changement tactique, mais qui a jailli d'une blessure, celle de Johan Roche, hein, l'ancien de la maison RAF. Est-ce que ce changement tactique, d'ailleurs, vous a perturbé en fait ?
Ben, je pense pas tant que ça. Je pense qu'on fait une grosse entame de matchs, ce qui n'était pas dans nos habitudes les derniers matchs. Donc, on fait 30, même 40 grosses premières minutes, en fait. Et voilà, comme d'hab, on se relâche juste avant la mi-temps. En plus, on le dit sur le terrain, on se parle, on le dit, il ne faut pas prendre le but avant la mi-temps, il ne faut pas le prendre. Et puis, ce qui arrive. Ouais. On prend ce but juste avant la mi-temps qui les relance, quoi.
Ouais, effectivement, il a son importance ce but. Johan Roche qui faisait son retour à Paul Lignon après avoir quitté Rodez en 2021 pour deux saisons passées en Turquie sous les couleurs de l'Adanaspor. On se demandait d'ailleurs samedi lors du match si vous étiez croisé à l'époque. Alors, pas en compétition, mais à l'entraînement, non ?
Non, moi je ne l'ai pas connu, Johan Roche. Je le connaissais de nom, mais je n'ai jamais croisé.
Peut-être à l'aéroport, c'est ce qu'on disait à l'antenne, mais en tout cas pas sur les terrains, effectivement. En tout cas, cette blessure de Johan Roche, elle aura peut-être contribué d'une certaine façon au renouveau de Quevilly, puisque c'est le premier buteur normand qui va rentrer à sa place. On vient d'en parler avec Jean-Charles. Ce but, est-ce qu'il vient un peu sanctionner le relâchement de fin de première période, Kylian ?
Ouais, totalement. Comme je dis, on est jeune, on manque d'expérience. Là, je pense qu'il y a aussi un problème de mentalité. Il y a un moment donné où quand tu mènes 2-0, tu es juste avant la mi-temps, tu défends, tu fais le dos rond et tu prends pas de but. Et là, on le fait pas, on joue un peu facile et on se fait punir et on leur redonne espoir.
Alors évidemment, c'est facile à dire, mais est-ce que c'est un but à ne pas prendre, justement, à ce moment-là de la partie ?
Totalement. C'est un but qu'on n'a pas le droit de prendre juste avant la mi-temps. Totalement.
Ouais. Il faut faire quoi ? Il faudrait te...
Plus agressif, ouais. S'il faut dégager le ballon dans la tribune, le dégager, gagner du temps, voilà, toutes ces choses-là qui font partie du foot et qu'on n'a peut-être pas à cause de notre jeunesse.
Mais c'est avec la maturité, l'expérience,
Je pense que c'est avec la maturité, l'expérience, l'enchaînement des matchs et voilà.
On va revenir sur les autres buts, mais C'est peut-être le plus évitable, effectivement, des trois, hein, dans la façon dont il est arrivé. Au retour des vestiaires, en tout cas, on sent que Rodez est revenu avec les mêmes intentions qu'en début de match. On efface tout et on recommence. Qu'est-ce qu'il en a dit, d'ailleurs, votre coach de la première mi-temps pendant la pause? On s'est dit, est-ce qu'il va gueuler à cause du but encaissé à la fin? Est-ce qu'il va plutôt être content du reste?
Non, au contraire, tout le monde avait quand même la tête baissée globalement dans le vestiaire parce que le but, il fait mal avant la mi-temps. On sait qu'on leur donne espoir bêtement. Et le coach, au contraire, il a un discours positif pour nous dire, les gars, on gagne 2-1, on est chez nous, on sait qu'on va en marquer d'autres. Et on règle les problèmes tactiques dus au changement. Et voilà, c'est tout, mais pas plus.
Ouais. Rodez qui repart donc sur de bonnes bases avec un troisième but signé Kevin Boma, où vous jouez un rôle important d'ailleurs. Hein.
Ouais, ben, je pense que s'il n'a pas, je peux l'avoir.
Ah ouais.
Mais ouais, c'est pareil, c'est la même zone un peu que le premier. Boma, il sait qu'il doit arriver dans cette zone, il arrive, il la met parfaite et voilà.
Vous jouez un rôle de blocus?
Ben, en fait, moi, je bloque le défenseur et après, je joue le duel avec lui. Et là, cette fois, Kevin est rentré dans la zone où il y avait l'espace et c'est comme ça qu'il a pu marquer.
Ouais, vous aviez fait le même appel un peu ou c'était une façon de neutraliser le défenseur à deux sans se poser la question?
Non, on était un peu dans la même zone. Moi, en fait, ça s'est allé un peu plus au second et là, c'était du marquage individuel, donc j'étais pris au marquage. Je joue mon duel, ça permet de le bloquer et de laisser l'espace à Kevin et il a bien pris l'espace. Et voilà.
Ouais, on a estimé que vous étiez un peu le jambon du sandwich là, dans cette affaire.
Effectivement. Rodez qui refait donc le break avec ce troisième but signé Kevin Boma. On en est donc à 3-1. On est même à deux doigts du 4-1 avec ce but refusé à Wanis Taibi. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe au moment du but refusé pour Wanis Taibi?
Pas du tout. Pas du tout. En plus, je me retourne, donc je célèbre avec Hakim Abdallah qui vient de centrer. Et puis je vois que Hakim fait une tête dégoûtée. Et puis je regarde là-bas et je vois que l'arbitre a sifflé hors jeu. Et voilà.
Ouais. C'est vrai qu'on a eu le temps de s'enflammer. Hein.
Oui, c'est le problème de signaler les hors-jeux à la fin de l'action. Fin. Exactement. Y a un petit temps qui permet de célébrer finalement ces actions-là. Et malheureusement, le retour à la réalité est parfois rude. Est-ce que vous avez revu ce but de Wanis Taibi refusé?
Ouais, j'ai revu le but.
Hors-jeu ou pas alors, selon vous?
Honnêtement, c'est très limite. Mais je pense qu'à la VAR, il y a possibilité de hors-jeu, je pense. Bon. C'est très limite.
À la VAR, ça sera la saison prochaine, en tout cas. Ouais.
C'est toujours le problème, effectivement, de ne pas avoir de plan aligné dans l'alignement. Tout ce qu'on a, c'est des plans plutôt milieu de terrain.
Et qui sont
dans ces cas-là,
biaisés,
ça peut être vraiment, vraiment trompeur. On va faire confiance à l'arbitre de touche qui était vraiment dans l'alignement. À ce moment-là, en tout cas, difficile d'imaginer la tornade de rebondissement qui va suivre. Et je ne dis pas ça seulement parce que le vent va se mettre à souffler encore plus fort. Ça n'a pas été un cadeau, d'ailleurs, non, en fin de match, ce vent-là?
Non, pas du tout. Avec leur façon de jouer, en plus, en sachant que nous, on essayait de faire le dos rond, justement... dû au carton rouge, de défendre, de ne pas encaisser de but, le vent ne nous a pas du tout aidé, non.
Et la suite, c'est la blessure de votre gardien, Sébastien Cibois, qui est remplacé par le jeune novice Enzo Crombé. Sébastien Cibois qui s'est peut-être blessé d'ailleurs sur une action symbole de ce relâchement dont on parlait, un dégagement raté qui l'a obligé à intervenir en deux fois. Ça rappelait un peu ce qui s'était passé en Coupe de France, je crois que c'est contre Mayenne, non? Où il est obligé de s'y reprendre à deux fois, de sortir dans les pieds. Il se rattrape bien, mais ça lui a peut-être coûté cette blessure, a priori pas grave. Normalement, Sébastien Cibois, qui devrait être de retour ce week-end, on croise les doigts, évidemment.
On rappelle que Jeannine Passy est déjà blessé et out jusqu'à la fin de la saison.
Et du coup, en tout cas, plongé dans le grand bain pour Enzo Crombé, qui a joué ses 25 premières minutes en pro de toute sa carrière samedi. Forcément, pour lui, quel qu'a été le scénario du match derrière, ça reste un événement.
Je me disais déjà, j'avais regardé un peu la saison dernière, j'ai suivi un petit peu. Je me suis dit, bon, je m'attends à tout. Mais bon, pour l'instant, je suis troisième, je vais rester troisième. Après, il y a eu des scénarios qui ont fait que je suis passé deuxième, que là, Seb se blesse. Et puis voilà, j'ai dû rentrer et j'ai dû faire ce que j'avais à faire. C'est toujours compliqué de rentrer dans un match face au vent en plus. On commençait à peiner un petit peu, mais bon, on essayait de faire comme on pouvait. Il faut rester solide parce qu'il ne faut pas trembler. C'est très important de rester concentré, de toujours mobiliser tout le monde. Parce que sinon, on aurait pu faire bien pire que ça. Mais on va dire qu'on a fait notre maximum. Bon, il y a des petits détails qu'on pourrait faire mieux, mais bon, c'est comme ça. J'ai effectué ma première pole Lignon, malgré le résultat. Mais bon, c'est comme ça, j'ai été content d'avoir fait ma première, surtout ici, ça fait plaisir.
Enzo Crombé ou Crombez, en fonction, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Jean-Charles dit Crombé, Kylian Corré dans notre invité qui dit plutôt Crombez.
Ouais,
ça fait un partout, balle au centre, comme ça on lui posera directement la question. En tout cas, il garde un souvenir heureux hein, de cette première, le portier remplaçant de Rodez. Alors c'est forcément un grand moment pour un footballeur, je suppose que vous ne pouvez pas contredire tout ça.
Non.
Quand on joue sa première en professionnel, c'est évidemment un beau moment, mais est-ce que c'était quand même pas un cadeau empoisonné de lui faire à ce moment-là de la partie ?
Je pense que c'est pas facile de rentrer dans un match comme ça. Le vent qui se lève, on prend le rouge. On était en train de faire le dos rond, et Quevilly était en train d'essayer d'attaquer pour marquer. Non, franchement, c'est pas un cadeau, mais en tout cas, je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée sur ses premières interventions.
Très serein.
Il s'est vite mis dans le bain. Ouais.
Même au pied, il en a une. Je me rappelle là, quand Quevilly prend le rouge, il met un bon ballon au milieu. Non, franchement, très bonne rentrée de Enzo, je suis content pour lui.
Oui, et pourtant, on rappelle, il n'avait pas eu le temps de s'échauffer. On l'a mis à contribution tout de suite avec le jeu de Rodez, où on sait que des fois, il faut partir court au pied dans ses défenseurs centraux. Donc, ce n'était pas forcément si simple que ça, effectivement.
On a demandé à Kevin Boma, d'ailleurs, hein, s'il avait vu ce changement de gardien comme le tournant du match. Bah, pas forcément pour lui.
Je pense que le moment de sentiment était quand même arrivé un peu avant, honnêtement, si je veux être honnête. Après, voilà, on avait confiance en Enzo aussi de la même manière qu'on a confiance en Seb, donc je pense pas que ce soit un changement de gardien qui nous ait mis dedans. Voilà, c'est à nous aussi de mettre en confiance Enzo, c'est son premier match en pro. À nous aussi sur le terrain de lui mettre dans les meilleures conditions, donc on peut pas dire que c'est de sa faute de la faute du changement que ça nous a déstabilisé.
Au moment où Enzo rentre au score, en tout cas, c'est vrai que les choses ne se sont pas encore vraiment gâtées, mais Quevilly va ajouter un deuxième but par Koulibaly. Grosse bataille d'ailleurs dans la surface sur ce coup franc repris de la tête. Grosse bataille.
Hein. Ben ouais, on est en marquage en zone. Il y a moi et Lorenzo, on doit gêner un peu les joueurs à la sortie qui se lancent. Et là, je vois qu'en fait, entre Stone et, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Serge, il y a un espace et je le vois y aller dedans. Du coup, j'y vais au dernier moment un peu et il arrive à prendre le dessus sur moi.
Après, il y avait des grands gabarits hein, du côté de Quevilly pour remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. Et ils font rentrer quand même deux grands joueurs, Camara Koulibaly. Il y avait du répondant dans le domaine aérien, on va dire.
Ah oui, c'est sûr. Ouais. Bah, ils les ont fait rentrer pour ça. Hein. Le vent, les ballons devant, les centres et résultat, ça a fonctionné pour eux.
Ouais. Et derrière, les choses vont encore se compliquer avec l'expulsion de Kevin Boma. Un peu comme pour toute l'équipe, ça a été un match douche écossaise pour lui. Premier but en pro, premier carton rouge en pro aussi derrière. Et il plaide coupable.
Bah, je fais faute. Après, c'est une erreur d'appréciation. Je pense que je fais pas le bon geste, en fait, simplement. Tous les cas, je dois dégager la balle. Il n'y a même pas de question à se poser. Puis après, ça serait pas passé. Donc voilà, maintenant, c'est fait. J'ai fait une erreur aussi. J'apprends. C'est dommage que ça coûte des points aussi à la fin, mais voilà, c'est un goût amer en tout cas avec le but en premier lieu et après derrière ce carton rouge. Mais voilà, j'apprends aussi et à moi de continuer à travailler pour revenir et être plus concentré.
À 10 contre 11, est-ce que l'égalisation devenait inéluctable, vous diriez ?
Non, pas du tout, pas du tout. On l'a déjà fait, contre Pau même, on allait chercher la victoire à 10 contre 11. Non, moi je me suis dit sur le 3-2, on va tenir. Et puis on aura peut-être une action où on va pouvoir marquer le quatrième parce qu'on en est capable. Après, ça ne s'est pas passé comme ça.
Ouais.
Dommage.
Donc oui, vous ne dites pas comme Enzo, c'est pas mal d'avoir sauvé le match nul. Non, c'est, pour vous, c'est pas bien.
Non, c'est, en fait, je suis frustré du match dû au scénario. Après, il faut quand même qu'on se rende compte qu'on est sur une série de 8 matchs en défaite. On fait nul à Quevilly alors qu'à l'aller, on avait perdu. On est cinquième du championnat. Enfin voilà, faut
relativiser.
Faut
même,
bien sûr. Voilà.
Ce sont des problèmes de riches, on pourrait dire.
En tout cas, cette égalisation, elle arrive tard dans le match, dans le temps additionnel de cette rencontre. Qu'est-ce que Rodez aurait dû mieux faire, justement, dans cette dernière demi-heure, voire même dans ce dernier quart d'heure, pour conserver cette avance de un but ?
Je pense qu'on n'a pas été bon tactiquement, dans le sens où on prend le rouge, on est à 10. Fallait que moi et Tyric, on nous laisse, Esley, jouer les transitions. On perd le ballon, on essaye des choses, c'est pas grave. Mais je pense qu'il fallait vraiment qu'on reste bloc compact derrière et faire le dos rond, tout simplement. Et être tous dans la surface s'il faut et défendre le but coûte que coûte. Et là, au résultat, sur le dernier but, ce qu'on voit, c'est qu'on est mal placé et on est tous mal placés. On revient mal, on revient pas à fond. Enfin,
donc, dû à la réorganisation tactique ?
Non, pas dû à la réorganisation, mais dû à ce que nous, on a voulu faire. C'est-à-dire qu'à la fin, on attaquait comme si on était 11 contre 11, à la place de défendre et de faire le dos rond dans la surface.
Il aurait fallu justement pas prendre de risques.
Pas prendre de risques.
Ok.
Ouais. Deux points de gaspillés, donc, quand même, pour résumer.
Ouais, je pense que sur le scénario de match, on peut dire que c'est deux points gaspillés. Ouais.
Alors, toutes les équipes lâchent des points dans des matchs où elles peuvent espérer mieux. Hein. C'est évidemment un grand classique. Mais c'est vrai que c'est peut-être l'exemple de la saison où on a le plus l'impression que Rodez a clairement offert deux points à son adversaire. On se rappelle qu'il y avait eu le but encaissé dans les arrêts de jeu contre Laval. C'était déjà à Paul Lignon, mais il avait coûté qu'un point déjà.
Bordeaux. Et puis,
il y avait eu Bordeaux. Mais on avait davantage l'impression que Rodez avait fini par craquer hein, contre Laval et pas qu'il s'était sabordé. Sabordé, c'est trop fort, vous diriez, comme mot pour ce qui s'est passé samedi.
Ouais, bah, surtout que Laval, c'était plus une injustice. Je pense que ouais, ça a été plus une injustice d'arbitrage.
Oui, il y a eu des faits.
Des faits quand même, voilà. Mais non.
Avec le même arbitre d'ailleurs, tiens.
C'est elle.
Rémi Landry ?
Ouais. Ouais, c'était le même.
Et ben voilà.
Ouais, voilà.
Vous trouvez la cause. Bravo, vous avez mis le point là où il fallait. Bravo Jean-Charles.
On avait beaucoup parlé de l'arbitrage.
Vous êtes un bon détective, vous voyez.
Mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que, a priori, il n'y a pas eu. Il n'y a pas scandale sur l'expulsion, il n'y a pas scandale sur
le
hors-jeu.
Vous avez raison de le préciser, effectivement. Ça n'a aucun lien, même si c'était le même arbitre.
Ouais. En tout cas, de fil en aiguille, on s'est intéressé au nombre de buts que Rodez a encaissé en fin de match. Alors, on va dire, dans le temps additionnel. Est-ce que vous avez une idée, tiens ?
Pas du tout. Bah, Bordeaux. Laval, là. Après, ouais, début de saison, je ne m'en souviens pas.
Bah, ça fait 5.
Ouais, ça doit être 5, ouais.
Et c'est le deuxième plus gros total du championnat, juste derrière Caen, qui en a encaissé 6. Donc, ça veut dire qu'il ne faudra pas partir avant la fin du match samedi, hein, à Dornan. L'un des événements marquants de ce match nul, donc on y revient, c'est cette blessure de Sébastien Cibois, même si elle n'a pas l'air grave. Elle vient raviver le fameux dossier du joker médical qui est dans les tuyaux depuis la blessure de Lionel Mpassi au retour de la CAN, mais qui n'a jamais été activé jusqu'ici. On l'aurait presque oublié finalement hein, dans la dynamique actuelle de Rodez, tout va bien. Même si on y avait pensé au moment de l'instant ramadan, nous, contre Grenoble, parce que dans le feu de l'action, évidemment, nous, on n'était pas au courant. On a cru que Sébastien s'était vraiment blessé et on s'était dit, tiens, Didier Santini doit penser très fort à cette histoire de joker médical. Bon, finalement, il devait moins y penser que nous. Mais en revanche, samedi, quand Sébastien Cibois s'est vraiment blessé, c'est possible que ça lui ait trotté dans la tête. C'est un dossier délicat parce que le dilemme qui se pose au club, finalement, depuis le mois de janvier, c'est est-ce qu'on intègre un élément extérieur à un groupe qui est en harmonie ou est-ce qu'on prend le risque de se retrouver dans la situation de samedi avec potentiellement une blessure plus grave. On imagine que ça a quand même pas mal dû discuter de ça depuis le match, non, entre vous ?
Pas entre joueurs, pas du tout.
Pas du tout.
Très honnêtement, pas du tout. On n'y pense pas. Ça, c'est au staff. C'est au staff et à ceux qui sont au-dessus de gérer ça, nous, non, on n'en parle pas. On a confiance en Enzo, on a confiance en Seb, et je pense que ça va aller pour les 7 derniers matchs. Seb, c'est bon, il ne se blessera pas, on va croiser les doigts. Mais
on a un peu déjà connu cette situation avec Thomas Seki qui avait, l'année dernière, remplacé Lionel Mpassi et Sébastien Cibois. Finalement, c'est un bis répétita par rapport à la saison dernière.
Ouais, je pense que Enzo peut jouer, on a confiance en lui. Et au pire des cas, avoir un jeune sur le banc si Seb se blesse, voilà. Mais bon.
Donc partir avec encore de la jeunesse et, ouais, et des joueurs pas forcément très expérimentés.
Ça marche depuis le début de saison, donc pourquoi changer ?
C'est vrai. Le constat est sur le papier. En tout cas, c'est vrai que ça fonctionne. Ouais. Maintenant, ce rôle de gardien, on le sait que c'est un rôle un peu particulier.
Ouais, c'est un rôle où quand même il faut de l'expérience, mais vu la rentrée.
Surtout pour aller jouer le top 5.
Mais vu l'entrée que fait Enzo, moi.
Ça vous inquiète pas ?
Non, pas du tout.
Donc vous, si vous aviez un avis à donner, vous diriez non, pas la peine d'aller chercher un joker.
Moi non, moi j'ai confiance à Enzo.
Ok. Bon, il fallait monter un dossier, hein, on le rappelle, pour bénéficier de ce joker médical. Ça a été fait, hein, ça évidemment depuis longtemps. Des gardiens ont également été envisagés, mais reste à passer ou pas à l'action. Et puis l'autre question, c'est est-ce qu'il y a un gardien sur le marché qui accepterait de faire une pige aussi courte.
Moi, on m'a soufflé le nom de Jean-Charles Virlogeux, mais apparemment, vous touchez pas là-bas. Donc, c'est pas possible, Jean-Charles. Allez, on termine cette première partie du Club sans erreur avec notre invité Kylian Corredor, avec un rendez-vous inimitable.
Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je dis que globalement, la question, elle est con.
Bien sûr, ce rendez-vous de la question à la con. Et juste après, on s'intéresse aux statistiques de Kylian Corredor depuis le début de l'année civile 2024. La question à la con, c'est le rendez-vous de Jean-Charles Vierloge.
Et pour fêter votre retour, parce que vous êtes déjà venu cette saison dans le Club 100 et Or, bah, on a un florilège de questions à la con. La première, c'est... du coup, vous avez fêté le maintien dans le vestiaire samedi ?
Non, pas du tout. Il manquerait plus que ça.
Pourtant, on pourrait dire qu'avec 47 points...
C'était le point du maintien. Ouais, hein.
C'était le point du maintien.
Si on avait gagné, on l'aurait peut-être fêté, mais là... Non.
Et ouais, ça vient occulter un peu le fait qu'il y a des ambitions quand même un peu plus élevées. Du coup, quelle ambiance ? C'était plutôt morose, énervé, frustré ?
Ouais, frustré. Beaucoup de frustration.
Et on le comprend, évidemment.
Elle est con aussi, celle-là.
Il en reste des questions à la con dans ce florilège proposé par Jean-Charles Vierlogeux.
Question à la con. Alors, on a beaucoup d'observateurs dans le Club 100 et Or. On a les yeux partout. Et l'un d'entre eux nous a fait remarquer que vous aviez un petit rituel avant le début du match. Le groupe, l'équipe se retrouve au milieu du terrain. Et vous, vous partez vers le banc de touche.
Désaltérer.
Ouais, exactement. Vous réhydratez et vous revenez ensuite dans le groupe. Est-ce que c'est un rituel ? Est-ce que c'est parce que c'est de la potion magique ?
Non, c'est un petit rituel. Et Charles, dès qu'on est aligné, qu'on a salué les supporters, je vais sur le banc, il m'amène ma gourde, je bois 2-3 gorgées, il me parle un peu et après, dès que tout le monde est en place, je les rejoins et voilà. Petit rituel.
Un petit rituel à la Zidane.
Ouais, c'est ça,
tout le monde a ses petits tricks, ses petits tocs, et Kylian en fait partie.
Le sportif, et en particulier sportif de haut niveau, c'est une affaire de rituel ?
Ah ouais, il y en a beaucoup qui sont aussi superstitieux dans le sport.
Oui, notamment votre président.
Ouais, notamment notre président.
Kylian Corredor, qui est notre invité dans le Club 100 heures, merci pour cette première partie. Vous restez avec nous, on va s'intéresser dans un instant dans la partie podcast sur notre site radiototem.fr. À vos statistiques depuis le début de l'année civile 2024, vous faites mieux qu'un certain Wissam Ben Yedder. Ça va parler à Jean-Charles Vierlogeux. On en parle dans un instant dans la partie podcast. Et à tout de suite.
Totem, le club sang et or. Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Vierlogeux.
Avec Jean-Charles Vierlogeux en studio, ainsi que notre invité, l'attaquant du Rodez Aveyron Football, Kylian Corredor. Une discussion hors antenne qui nous est venue de Robin. Donc Robin, c'est un membre du staff de Rodez, qui nous soufflait une petite stat. Rodez a utilisé 8 gardiens en 2 saisons. Alors, évidemment, dit comme ça, ça paraît énorme.
Oui.
Mais Rodez a donc utilisé ses 3 gardiens cette année. 3 gardiens la saison dernière. Avec, pareil, Lionel Mpassi, Sébastien Cibois et Thomas Seki.
C'est qui les deux autres?
Et voilà, c'est la vraie question qu'on se pose. Il y a eu les participations dans les buts de Giovanni Hag et de Lorenzo Rajo. On en arrive donc à ce total de 8.
Clean sheet pour les deux, je crois.
Exactement. Exactement.
Ouais.
Kylian, vous avez une préférence entre Giovanni Hag ou Lorenzo Rajo dans les buts s'il fallait en désigner qu'un seul?
C'est compliqué, mais Giovanni m'a fait forte impression quand même à Bordeaux.
Contre Bordeaux, il a supporté la pression.
Ouais.
Effectivement. C'est vrai qu'il y avait en plus des paramètres importants. Kylian Corredor qui est donc avec nous, l'homme qui court après Haaland et Mbappé. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est très flatteur. Mais vous allez voir que dans les chiffres, on s'en rapproche quand même pas mal. Kylian Mbappé depuis le début de l'année civile, c'est 18 buts. Trophée des champions, Coupe de France, championnat, Ligue des champions et matchs internationaux confondus en 21 matchs. Retenez tout ça, c'est très important. 2 triplés récemment contre Montpellier et en championnat avec le PSG contre Revel en Coupe de France. L'anglais Harry Kane, joueur du Bayern Munich. 13 buts depuis le début de l'année, 15 matchs, toutes compétitions confondues là aussi. Pour le géant norvégien Haaland, c'est 11 buts, toutes compétitions confondues, depuis janvier 2024 en 17 matchs, dont un quintuplé contre Luton Town en Cup. Kylian Corredor, qui est donc avec nous en studio, 9 buts depuis le début de l'année civile, en 14 matchs, dont un triplé contre Chalant en Coupe de France. Donc si on compare tous ces chiffres, et sans tenir compte des minutes de remplacement, parce qu'il fallait évidemment compter tout ça, s'il y avait des rentrées, des sorties, et ainsi de suite. Pour Kylian Mbappé, c'est un but toutes les 105 minutes. Pour Kane, c'est un but toutes les 103 minutes. Haaland marque toutes les 139 minutes, et Kylian, toutes les 140 minutes. Pas mal ces stats-là.
Ah, c'est pas mal. Après, on joue pas au même niveau encore, mais c'est pas mal.
C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter.
Bon, on a parlé de Kylian. En fait.
Oui, c'est vrai, effectivement. On a parlé d'attaquants, évidemment, qui évoluaient peut-être dans une sphère supérieure. Mais on va prendre des exemples comparables dans les prochaines minutes. On a pris 2 exemples. Meilleur buteur de Monaco, Ben Yedder. Meilleur buteur de Lyon, Lacazette. Pour le joueur de Monaco, 12 matchs, 7 buts, dont un triplé contre Rodez en Coupe de France. Donc, un but toutes les 154 minutes sur le terrain. Donc, c'est moins bien que vous, Kylian. Pour le Lyonnais, bon, évidemment, il faut reprendre l'embellie lyonnaise depuis le début de l'année, mais 14 matchs, 10 buts, donc un but toutes les 123 minutes pour le buteur lyonnais qui retrouve donc un peu plus de fois le chemin défilé que vous. Vous êtes donc entre ces deux grands joueurs, quand même, deux joueurs qui ont connu l'équipe de France et le top niveau. Ça vous fait quoi d'entendre tout ça, ces chiffres-là?
Bon, c'est flatteur, mais franchement, honnêtement, ça ne me fait rien. On joue pas encore au même niveau. C'est pas encore comparable.
Ok, alors pendant la Ligue 2, meilleur buteur du championnat, c'est Mendy, Alexandre Mendy, contre qui vous allez jouer normalement ce week-end à Caen. Il a joué 13 rencontres, 7 buts, donc un but tous les 167 minutes. Donc c'est mieux que lui pour l'instant, alors qu'il est, on le rappelle, meilleur buteur du championnat. Le deuxième meilleur buteur du championnat, c'est Johnny Danger, qui a marqué seulement 3 buts en 9 matchs. Bon, ça montre aussi la dynamique plutôt moyenne de son club. Un but toutes les 270 minutes. Il a également été blessé dans ce début d'année. Ça peut aussi rentrer dans les explications. Et alors en interne, 15 matchs pour André Asuntunji depuis le début de l'année, 7 buts. Lui, il trouve le chemin défilé en moyenne toutes les 192 minutes. Donc ça veut dire que pour l'instant, même quand on prend et quand on élargit au championnat de Ligue 2, vous êtes le joueur le plus décisif de l'année civile.
Et d'ailleurs, vous êtes passé à la troisième marche du nombre de buteurs. Vous êtes passé devant Sambou Soumanou, je crois.
Ah bah lui, il a 11 buts.
Même nom. Buts, ouais. Ouais, même nom. Aussi. Exactement.
Il est vraiment menacé par les attaquants ruthénois. Ça lui apprendra.
Je l'avais dit avant le match. Ouais. J'allais l'égaliser.
Bon, en tout cas, là, on a le même niveau, le même championnat. Bon, ok, peut-être qu'au début, c'était peut-être pas comparable avec des gens comme Mbappé, Haaland et ainsi de suite, parce qu'il y avait peut-être pas le même environnement. Mais là, on peut comparer des équipes de Ligue 2.
Ah non, ça fait plaisir. Après, c'est comme. Comme on l'a dit avant, c'est que ça montre aussi la dynamique de l'équipe. On est sur une bonne dynamique, une bonne période, et c'est plus facile pour nous, les attaquants, de marquer. Et voilà.
Est-ce que ce n'est pas une petite revanche sur le début de votre parcours professionnel où vous dites, bah là, voilà, j'ai réussi à briller même en Ligue 2?
Ouais, si, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Déjà, là, j'étais content de ma saison dernière pour une première saison. Là, la première partie de saison était aussi correcte. J'avais des objectifs que j'avais atteints. Et là, je suis au-delà de mes objectifs que je m'étais fixé en début de saison.
Donc les objectifs de début de saison, c'était quoi? Comme ils sont atteints, on peut les dire?
C'était 10 buts, okay. Atteindre la barre des 10 buts et avoir 5-6 passes D.
Ok. Donc 10 buts, on les a dépassés. Les passes D, on en est à
6.
6, ok. Ah, voilà. Donc il y a des nouveaux objectifs qui ont été mis en place.
Ouais, nouveaux objectifs.
Non, moi je m'arrête.
Je reviendrai en fin de saison les dire.
Pas de problème. Il reste encore quelques rencontres à jouer. Donc,
7 matchs, ouais.
Donc
ouais,
forcément.
Il faut continuer sur cette cadence, évidemment. Il ne faut pas qu'il s'enflamme, Kylian, comme le reste de l'équipe. Mais ceci dit, en plus. Je dis ça et en même temps on va lui mettre un compliment de plus par rapport à peut-être certains joueurs que vous avez cités. Il fait pas que ça en plus, hein, Kylian.
Oui, l'attaquant de Rodez ne fait pas que marquer des buts. Il doit pas être que dans des bonnes zones. Il a aussi un rôle important dans le repli défensif, dans les courses, dans les duels. Donc c'est réducteur de dire que vous n'êtes qu'un attaquant qui marque. Ouais. Il y a plein de choses.
Après, chacun a sa vision du football, chacun a sa vision de l'attaquant. Par exemple, Mendy, je pense que il joue pour marquer des buts. Et ses stats, on le voit sur ses stats. Voilà.
19 buts, on rappelle au total pour Alexandre Mendy.
Moi, je n'ai pas cette vision-là du foot. Pour moi, un attaquant, ça doit savoir aussi tout faire. Ça revient défendre et mettre un tacle dans nos 30 derniers mètres. Ça vient participer au jeu. Un Karim Benzema, un Edinson Cavani, voilà, ça c'est des attaquants, pour moi c'est des exemples.
Et encore, on n'a pas pris en compte les buts sur pénalty, puisque vous ne prenez pas les pénalty dans votre club de Rodez. Est-ce que ça peut faire partie un jour d'une ambition future?
Là ce week-end, s'il y en avait eu un, c'était du moi du coup.
Parce que Bradley était remplaçant.
Parce que Bradley était remplaçant. Après, Brad est à pratiquement 100%, il en a raté un cette saison,
oui.
Mais sinon en 3 ans, il n'a raté aucun pénalty, donc comment lui dire
Là, c'était le moment. C'était le moment. Là,
du coup, c'était mon moment. Mais bon,
dommage.
Presque Lorenzo à un moment donné.
Il n'était pas loin. Il n'était pas loin de la surface de réparation, effectivement. Intéressons-nous maintenant à Caen. C'est votre futur adversaire ce week-end. C'est une équipe qui partage que très très peu les points. Seulement 6 matchs nuls depuis le début de la saison. Plus faible total comme Concarneau, Saint-Etienne ou encore Angers. Et c'est une vraie tendance qui se dessine car depuis la 22e journée, il y a 10 rencontres, il n'y a pas eu de match nul pour Caen. À domicile, il y a également un réel 12e homme. On ne parle pas de l'arbitre, on parle plutôt du public qui se réunit en moyenne à plus de 15 000 personnes. Sachant que le stade Michel Dornano, c'est plus de 20 000 places. Donc évidemment, il va y avoir du bruit. C'est vrai que Rodez, dans ce domaine-là, pour l'instant, ça y travaille, puisque le stade n'est pas encore totalement terminé. Bon, déjà, Rodez, ça fait pas mal de bruit. L'enceinte résonne bien.
Le stade est très bien. Déjà.
Donc, on peut penser que dans les échéances futures, et notamment l'année prochaine, il y aura encore plus de bruit à Paul Lignon.
On a vu toute l'ambiance à l'anglaise, hein, notamment sur le but de Kevin Boma. Hein, il est carrément venu taper dans la main des supporters. C'est génial.
On rappelle, alors sous contrôle de Robin qui est à nos côtés, mais c'est le 8e match consécutif à guichet fermé. Donc là aussi, ça montre qu'il y a un engouement. Neuvième match, on avait oublié, merci Robin. Une équipe donc à réaction, cette équipe de Caen, un peu comme en Rodez, sauf que Rodez ça a un peu changé depuis ces derniers temps, c'est plus une équipe à action qu'à réaction. Caen c'est une équipe qui marque souvent en deuxième période, 30 buts contre 17 en première période, et qui adore par contre les fins de mi-temps. Prenez ça en compte Kylian. Oui. Puisque Caen marque 44% de ses buts en première mi-temps dans les 10 dernières minutes, 33% de ses buts en deuxième période durant le dernier quart d'heure de jeu. Donc Caen met réellement la pression.
Il va y avoir de l'action en fin de match.
Fin de saison, effectivement. Côté joueurs, de nombreux joueurs qui ont de l'expérience, Alexandre Coef, Mathias Autré, Valentin Henry, qu'on connaît bien ici à Rodez, Quentin Daubin ou encore Romain Thomas. Kylian, ça vous rappelle pas quelque chose, Romain Thomas?
Mon but l'année dernière.
Le 11 mars dernier, effectivement, un match importantissime pour le maintien pour Rodez, victoire 3-2. Et vous marquez le troisième but de la rencontre pour Rodez, en mettant, comment dire, un petit vent à Romain Thomas, c'est ça?
Ouais, j'avais un petit coup de boost sur l'action.
Capitaine de Malherbe, Romain Thomas, qui, ce moment-là, n'avait vu que votre numéro dans le dos et n'avait jamais pu vous rattraper. Bon, on vous souhaite la même chose?
J'espère.
De marquer face à Caen. Bon, en tout cas, un an plus tard, Rodez ne joue plus du tout le maintien, mais ce match sera essentiel pour accrocher ce qu'on appelle le top 5. On en a bien compris que c'était l'objectif de Rodez, d'être dans ce top 5. Pas le même contexte, mais un match aussi important pour cette 32e journée.
Ouais, c'est un match important. De toute façon, les 7 derniers matchs, c'est 7 finales. On va jouer tous les matchs pour gagner. De toute façon, quand tu rentres sur la pelouse, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. On va aller là-bas pour faire un résultat. On est capable. C'est des matchs qu'on aime. Avec des grosses ambiances, on joue au foot pour ce genre de match. On va essayer d'aller accrocher quelque chose là-bas. Et si on peut ramener les 3 points et les mettre un peu plus loin de nous, on va pas s'en empêcher.
Bon, un gros match pour le top 5, hein, effectivement.
Effectivement. Caen 7e, ouais. Rodez 5e. Rodez qui a 2 points d'avance sur Caen et qui va devoir se passer de Andreas Untunji. Ça, c'est la petite mauvaise nouvelle, puisqu'on rappelle que le joueur est prêté par le Stade Malherbe de Caen, qui pourra pas composer le duo d'attaque Untunji-Corredor. Ça va vous manquer pour un match?
Bah, après, il y a Tahiri qui nous a prouvé sur le dernier match qu'il est là, qu'il est toujours là, qu'il travaille pour être prêt les week-ends. Et ce week-end, il sera prêt et voilà. Il va nous faire la même prestation que contre...
Contre quand au match aller?
Contre 3. Il fait but passe dé.
Contre quand au match aller, c'est pas là où il fait triplé?
Si, en plus, c'est là où il fait triple.
Il me semble. Il y a aussi la possibilité qu'il réitère ce genre de prestation. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter également. On rappelle qu'il était venu avec le ballon du match, hein, dans le club 100 heures lors de son triplé.
Exact.
Vous vous souvenez, Jean-Charles? Ouais. Vous avez fait une photo, vous étiez fan absolu de ce ballon.
C'est une synergie différente, du coup, non? Quand on change de partenaire en attaque comme ça.
On joue différemment. Je ne joue pas de la même façon que je joue avec Andreas qu'avec Tahiric. Parce qu'on a des jeux qui se rapprochent un peu plus avec Tahiric. Il est capable de caler, de décrocher, mais d'aussi aller en profondeur. Alors que Andreas aime beaucoup plus la profondeur et va beaucoup plus vite que nous, déjà. Donc on joue différemment, mais on est aussi habitué à jouer. Tu vois, on travaille à l'entraînement, on tourne tous les attaquants pour être habitués à ce genre de match et pouvoir les jouer ensemble et avoir des automatismes.
Ce travail de calage dont vous parlez, on l'avait vu de manière époustouflante sur le but de Lorenzo, hein, contre l'Estac. En tout cas, c'est vrai que Caen, c'est plus l'adversaire numéro 1 de Rodez pour le top 5, parce que heureusement, avec ce match nul, beaucoup d'autres concurrents ont également failli le week-end dernier, sauf le PFC qui est devenu votre premier rival à 1 point. Il faudra essayer de garder tout ce petit monde derrière soi, évidemment, samedi.
Rodez à 2 points du top 4 de Laval et à 2 points du top 7. Caen, au milieu, vous l'avez dit, c'est le Paris FC qui est venu s'insérer dans cette 6e place du championnat. Match ce samedi 19h, Caen Rodez, à vivre évidemment dans l'intégrale 100h avec Jean-François Tefaut. Kylian, merci beaucoup d'être passé nous voir.
Avec plaisir, merci à vous.
Bonne
merci
semaine d'entraînement Kylian. Et puis merci. Bon match samedi.
Et merci.